société avec Nick Payne.
Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être à l'écoute pour cette autre édition de Société. Dans un instant, nous jasons avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe de l'actualité politique au sens large, évidemment, puisque cette semaine, un sujet a créé une sorte d'éclipse médiatique, du moins ici d'où je vous parle à Montréal, mais c'est un sujet qui dépasse largement désormais les frontières de cette ville. On parle bien sûr de cette arrestation puis la mise en prison injustifiée. Parfaitement spectaculaire là, du citoyen Mamadi Camara dans l'affaire de l'attaque sauvage sur un policier. Nous y revenons parce qu'il y a toutes sortes d'implications, bien sûr, à ça. Puis on a hâte de connaître l'avis de nos deux comparses là-dessus. Un peu plus tard à l'émission, nous revenons sur une nouvelle qui a, comme plusieurs autres, été passé sous silence notamment l'événement dont je viens de parler, c'est victoire là, judiciaire importante là, pour les personnes dites trans et non binaires. La Cour supérieure, en effet, a invalidé un certain nombre d'articles du Code civil pour, en ce qui a trait notamment là, aux dénominations parents, père, mère, homme, femme et le reste. On va essayer de démêler tout ça avec Maître Guillaume Rousseau un peu plus tard dans l'émission. Et puis, une autre nouvelle de la semaine, c'est la sortie de la ministre Sonia Lebel qui a fait part des positions du gouvernement de François Legault dans la réforme de la loi sur les langues officielles qui doit être pilotée à Ottawa par la ministre Mélanie Joly. On va discuter de ça avec Frédéric Lacroix, notre expert en langue, si on veut. Alors, ça, ce sera un peu plus tard dans l'émission. Mais pour tout de suite, allons rejoindre les deux Fred de l'actualité. D'abord, Frédéric Bérard, quelque part Grizzly Adams dans la forêt, c'est ça? Bonjour, Frédéric Bérard.
Tout juste, Nick Payne, bonjour.
Chroniqueur au journal Métro, avocat, et il y a beaucoup d'avocats dans cette émission. Et haute teneur en avocasserie. Et peut-être, en tout cas, en avocat, certainement. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour, je ne suis pas avocat, mais j'aime bien le bois, habitibien de naissance que je suis.
Oui, et vous vous plaidez quand même. Vous êtes un fort plaideur, pas de doute là-dessus, dans votre, en votre genre. Évidemment, commençons par cette affaire invraisemblable. Résumons pour nos auditeurs qui auraient peut-être été en dessous d'une roche toute la semaine. Je pense que cette nouvelle a largement dépassé les frontières de Montréal. Mais donc, cet homme est arrêté le long de l'autoroute métropolitaine à Montréal parce qu'il il utilise, semble-t-il, son téléphone cellulaire au volant. Le policier lui remet une contravention, dit-on, de 500 $ et il faut noter ici que c'est dans une espèce de une zone un peu il y a pas d'action là, il y a pas beaucoup de monde de sur la rue, c'est le long de l'autoroute aux abords du quartier parc extension, dis-je bien, et de l'autoroute métropolitaine. Le policier donc retourne vers sa voiture après avoir donné la contravention à M. Camara et il est sauvagement assailli, coup de barre de fer, on lui subtilise son arme, on tire sur lui les choses déboulent par la suite et ce policier identifie M. Camara comme étant son assaillant. Les enquêteurs dans l'urgence, parce que vous savez, quand les policiers se font attaquer de la sorte, il y a toujours une réaction épidermique très, très, très forte des corps du corps de police concerné et des corps de police en général. Et donc, on y va expéditivement. Semble-t-il qu'il y a une vidéo qui circule sur laquelle, dans un premier temps, une vidéo captée par une caméra de surveillance publique, sur laquelle, dans un premier temps, les enquêteurs ne remarquent pas une troisième personne qui, de façon tout à fait improbable, surgit sur les lieux juste avant l'agression. Mais par la suite, on finit par faire ce constat et on exonère M. Camara, on le libère et un jour plus tard, on l'exonère complètement en disant qu'une preuve De type, une preuve d'ADN là, confirme qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Et le directeur de la police de Montréal s'est excusé formellement depuis à M. Camara. Bon, j'ai essayé de résumer tout ça. Entre-temps, ce pauvre citoyen a passé 6 jours en prison. On imagine ce que ça représente. Là, pensez-y 2 minutes. Frédéric Lapointe, la sortie de la mairesse Plante et de Justin Trudeau aussi, qui évoquait, dans le cas de M. Trudeau, le profilage racial, le racisme systémique. C'était plus ou moins sous-entendu dans la sortie de Mme Plante également. Est-ce qu'on est allé trop loin? À quoi on a affaire ici? À une situation tout à fait exceptionnelle et abracadabrante, ou est-ce qu'il y a un élément de profilage racial possible dans le problème?
Je ne sais pas si les policiers ont mal regardé une vidéosurveillance sur l'autoroute pour des raisons de biais raciaux. Mais toujours est-il que si M. Camara avait porté une barbe, avait eu des tatous, était blond, enfin, indépendamment de ses caractéristiques, le déroulement des événements tend à démontrer que le policier agressé, du moins, n'a absolument pas cherché à mettre en accusation faussement l'individu. Une personne de bonne foi qui se fait agresser de la sorte lorsqu'on suit les événements, à savoir que c'était possiblement un cas de rage au volant après une arrestation. On peut pas soupçonner le policier d'avoir eu ce genre de biais. On peut.
Alors vous parlez là juste pour éclairer nos auditeurs. Juste une seconde. On parle d'une tierce personne qui aurait été auparavant, par exemple, peut-être arrêtée par le même policier qui aurait voulu se venger ou quelque chose comme ça.
Ben là, il y a le motif de l'agression qui est obscur. Hein. Pour quelle raison est-ce que quelqu'un, de façon complètement inopinée, sur la voie de service dans le coin industriel du nord de Parc Extension, voudrait s'en prendre à un policier avec une barre de fer? Donc, il n'y a pas une telle chose qu'un autre motif évident aux yeux des policiers dans le cadre de l'enquête. Cela étant, je suis très heureux que la vérité a été faite. La vérité n'a pas été faite par Valérie Plante. La vérité n'a pas été faite par Justin Trudeau. Mais ils ont été très prompts à capitaliser politiquement sur la situation. Et ça, je comprends les services policiers d'avoir réagi. Ils l'ont probablement dit en privé, donnez-nous 24 heures et on va avoir la preuve d'ADN. Mais les politiciens ont réagi, à mon avis, un peu trop rapidement.
Un peu fortement. Alors, on parle du président, du patron là, de la fraternité des policiers, Yves Francoeur, qui a rétorqué, qui a répliqué à la mairesse Plante avec une lettre vitriolique dans laquelle il l'accuse d'attiser la haine, de mettre de l'huile sur le feu, si on veut, et de sauter trop vite aux conclusions. Frédéric Bérard, on sait que au-delà du débat là, idéologique et des combats entre familles idéologiques, il y a des policiers qui sont des gens ordinaires, qui ne se considèrent pas eux-mêmes racistes, qui pensent qu'on les prend un peu pour des imbéciles et pour des gens qui ne sont pas capables de faire leur travail correctement, qui composent régulièrement avec des gens qui leur disent « Vous m'arrêtez parce que je suis noir ou ceci ou cela » et qui se sont sentis effectivement attaqués par la mairesse Plante. Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver quelque part là-dedans? Est-ce que Mme Plante, comme le dit Frédéric Lapointe, faisait de la politique, elle qui est dans son année électorale et qui, c'est pas la première fois ces dernières semaines qu'on la voit prendre des positions très campées, là, qui sont de nature à plaire à un certain noyau électoral important pour elle?
Oui, mais peut-être pas non plus. En le sens où... vous parlez de racisme. Je connais pas beaucoup de gens qui sont racistes et qui le savent. Hein. Le racisme systémique, à plus forte raison, c'est un racisme qui est fondé sur des biais inconscients. Donc, c'est un système qui crée ces espèces de préjugés. Et ce qui est quand même doublement, triplement, quadruplement ironique ici, c'est que le boss même du SPVM a admis l'année dernière que le SPVM lui-même pratiquait le racisme systémique dans ses interpellations. Vous avez quelque chose comme 5, 10, 15, 20 fois plus de chances d'être interpellé si vous êtes noir, arabe, autochtone que si vous êtes blanc.
Vous ouvrez un vaste débat. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il y a systématiquement du profilage ou bien il y a les gangs de rue, il y a ceci, il y a cela?
Oui, mais je veux dire, ça paraît pas, là, mais j'ai un étau. Là. Vous allez voir, là, ça va...
Ça se resserre? Allez-y.
Je vais recentrer mon truc. Ce que Frédéric a oublié de dire, par contre, Denis, je ne sais pas s'il est au courant, mais là, il y a une preuve qui vient de sortir qui explique qu'il y a un témoin oculaire de l'incident. Qui a dit aux policiers qu'il y avait un troisième homme? Ça, il me semble que c'est déjà drôlement inquiétant dans l'histoire.
Un chauffeur de taxi, hein? Je crois qu'il a dit ça.
Oui, exact. Ouais. Tu sacques quelqu'un en dedans pendant 6 jours, sachant qu'il y a un témoin oculaire qui dit non, il y avait une troisième personne. Qui, somme toute, tombe sous le sens? Parce que Camara lui-même a appelé le 911. Camara n'a pas de poudre à canon sur les mains. Camara n'a pas non plus, apparemment, d'empreinte digitale laissée sur le gun et ainsi de suite. Ça, ça prend pas 6 jours pour trouver ça. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le DPCP a porté des accusations de tentative de meurtre sur un agent de la paix. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de caméra et que les policiers s'étaient fichus de l'opinion du chauffeur de taxi en question, possiblement que Camara, éventuellement, se serait ramassé en dedans à perpétuité. Et ça, je trouve ça drôlement stressant. Et si je peux rajouter aussi une affaire là-dessus, pour ne pas oublier la question de l'enquêteur. Qui est cette espèce de jambon qui a regardé le film dans un premier temps?
Bon, ben attendez, on y revient ça dans un deuxième temps, si vous le voulez bien. Vous avez dit beaucoup de choses, mais malgré tout ce que vous avez dit, qui donne froid dans le dos, il y a quand même des si dans ça, hein, parce qu'on voit en même temps que le système a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième couche, si vous voulez, d'enquête. Il y a des gens qui sont venus ajouter au dossier, qui ont continué le travail et qui ont dit, attendez, ça marche pas, on a vu, on voit bien une ombre sur la vidéo, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Donc, ça n'est pas arrivé, ce que vous dites là.
Non seulement ce n'est pas arrivé, ça n'aurait pas pu arriver, puisque la preuve d'ADN qui a été concluante hier soir aurait de toute façon exonéré M. Camara. Bon, donc,
mais
je comprends qu'on peut passer de mauvaises nuits en prison, mais la probabilité que M. Camara passe le reste de ses jours en prison, compte tenu de ce qu'on sait maintenant de la preuve, cette probabilité est nulle.
Mais Frédéric Lapointe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bourde ou d'erreur peut-être monumentale dans le dossier. La question que je vais poser à Frédéric Bérard, c'est est-ce qu'on peut, comme ça, faire le lien, faire le pont automatiquement vers le profilage racial et le racisme systémique? Est-ce qu'on a des raisons, de bonnes raisons, de penser que ça a pu arriver? Là, on apprend aussi que le suspect, qui est désormais le premier suspect dans cette affaire-là, ressemble à M. Camara. Donc, est-ce qu'on est devant une histoire abracadabrante où il y a peut-être eu aussi des erreurs ou devant du profilage racial?
C'est sûr, Nick, qu'on est dans une histoire abracadabrante, ça fait absolument aucun doute. Pour répondre à Frédéric rapidement, il y a des gens qui ont déjà été condamnés sans qu'il y ait de preuve d'ADN sur le fusil en question. Hein. Surtout l'hiver, les gens ont des gants et ainsi de suite. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est que s'il n'y avait pas eu de vidéo, qu'est-ce qui se serait réellement produit et qu'est-ce qu'a bien pu faire le premier enquêteur pour en échapper une aussi grosse que celle-là? Maintenant, comme vous dites, Nick, le problème ici, c'est qu'il faut faire très attention avant de porter des accusations de racisme, qu'ils soient systémiques ou pas, parce que bien souvent, tout ceci est intangible. Et c'est d'ailleurs le problème, comme je l'expliquais, du racisme systémique. Ceci dit, moi, arrive un moment donné que c'est pas parce que tu peux pas le prouver que ça n'existe pas non plus. Et là, si on commence à aller chercher des preuves circonstancielles, moi, j'aurais tendance à vous poser la question suivante. C'est arrivé à combien de Blancs des histoires, bon, peut-être pas comme celle-là parce qu'elle est trop spectaculaire, mais par exemple, des Freddy Villanueva, des ticus de 12 ans qui jouent au dé, qui se font tirer par un policier. Il y a eu combien de Louis-Francis Tremblay qui se sont fait tirer de la même façon?
Bien, ça se peut qu'il y en ait un certain nombre. Frédéric Lapointe parlait tout à l'heure d'un homme qui avait fait l'hypothèse d'un homme barbu avec des tatouages et une certaine carrure. Lui aussi aurait été un suspect davantage qu'une jeune femme frêle et gentille, non?
Je vais vous donner un autre exemple. La semaine dernière, encore en même temps, là, il y a un avocat qui est originaire d'un pays africain qui est membre de la communauté noire, qui donc est avocat, qui se fait arrêter par un flic. Il est avec sa fille dans l'auto, il y a un char de luxe ou de semi-luxe.
Le vieux classique du véhicule trop luxueux pour la couleur de peau. Là.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis avocat? Les policiers partent lui rire en pleine face, cherchent ses enregistrements, le sortent, le menottent, tête sur le truc. Ben c'est drôle, ben, moi je suis avocat, puis j'espère ne pas avoir trop l'air d'un avocat au sens conservateur du terme, mais je ne me suis jamais fait interpeller d'aucune façon, par un flic en 25 ans de pratique. Ce n'est 24 années de pratique. Ce n'est jamais arrivé. Or, mes amis de race noire, eux, c'est monnaie courante. C'est peut-être pas une fois par jour, mais c'est peut-être une fois par deux semaines, une fois par mois, une fois par trois mois. C'est ça, le racisme systémique. Et je me semble qu'il n'y a pas mieux placé que le SPVM lui-même pour te dire s'il en fait, s'il admet qu'il en fait. Qui sommes-nous pour dire non, non, c'est pas ça, certainement pas ça. Il me semble qu'ils sont quand même relativement mieux placés que Tidjo la banane pour admettre eux-mêmes leur tort.
Alors, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on peut, à partir de la situation que décrit Frédéric Bérard, extrapoler et dire, donc, on ne peut pas écarter la question du profilage racial ou d'un certain racisme dans ce qui s'est produit, ou on ne devrait pas aller jusque-là?
Non, moi, je pense qu'on prend un peu trop facilement notre disque rayé qui saute un peu sur la même toune. Parce qu'il y a une personne de peau noire d'impliquée dans cet incident. 95% de la discussion publique passe sur l'identité raciale de la victime de la courte erreur judiciaire. Mais je vous signale que l'élément le plus inquiétant dans la situation, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une barre de fer et qui a agressé dans le dos un policier, lui a volé son arme et a fait feu. La situation, d'un point de vue de sécurité publique la plus inquiétante, c'est celle-là. Alors, face à ça, je ne suis pas moi-même policier, je ne suis pas moi-même enquêteur, mais je peux considérer raisonnable que face à des faits d'une telle gravité, quelqu'un puisse être en garde à vue un certain nombre de jours et que peut-être, pour que l'enquête avance, je ne sais pas quels sont les délais d'incarcération pour interrogatoire, etc., ben, il y a peut-être des accusations un peu rapides qui ont été portées pour garder monsieur en garde à vue. Donc, je comprends le disque rayé qui saute, qu'on raconte toujours la même histoire de l'avocat avec une voiture luxueuse, mais la vraie situation de sécurité...
Le problème, c'est que c'est arrivé pour vrai, il n'y a pas longtemps.
...en tout temps d'être frappé dans le dos et de se faire voler leur arme.
Alors justement, Frédéric Bérard, la sortie de la mairesse Plante n'a pas seulement fait réagir Yves Francoeur. Rappelons que Mme Plante est très, très, très rapidement sortie dans cette histoire-là en point de presse pour dire il est urgent de s'excuser, cet homme est innocent, c'est un scandale, etc. Et on n'était pas forcément en désaccord avec elle là-dessus, mais plusieurs ont dit que c'était une sortie, bon, alors, politicienne, oui, un peu peut-être électoraliste, et aussi que Mme Plante avait complètement oublié de parler du policier qui s'est fait sauvagement attaquer dans cette sortie-là. Est-ce que c'est pas là une erreur quand même importante de sa part qui n'est effectivement pas de nature à, comment dire, à combler le fossé qui semble se dessiner entre elle et son service de police?
Ben, évidemment qu'elle a choisi son camp. Évidemment que ça aurait pu être plus balancé peut-être. Mais reste que moi, si j'avais à choisir un camp, c'est ce même camp-là que j'aurais choisi.
Oui, mais pourquoi choisir un camp? Pourquoi pas être capable de montrer de l'empathie? Non, parce que Monsieur Camara, on est tous d'accord, c'est épouvantable ce qui lui est arrivé.
Mais non, justement, ça n'a pas l'air qu'on est tous d'accord, parce que au moment où Valérie Plante est sortie, le chef du SPVM disait c'est une affaire incroyablement complexe. Et puis là, oui, mais c'est pas clair encore que c'est pas lui. Hein? Là, attention, là, on poursuit l'enquête.
Ben lui, il disait, laissez-nous faire les choses dans le bon ordre.
Ben oui,
évidemment, c'est pas un expert des relations publiques. Hein? On a compris ça. On le voit ça, devant les caméras, il a l'air de quelqu'un qui s'en va chez le dentiste se faire arracher toutes les dents.
Oui. Mais l'autre affaire aussi là, qu'il faudrait pas oublier là-dedans, c'est que le DPCP, qui est indépendant des forces policières, c'est lui qui a décidé de retirer les accusations qu'il avait portées sous de la fausse preuve qui avait été communiquée par les policiers.
Oui, mais vous êtes avocat. Vous savez que dans un cas comme celui-là, la loi permet au DPCP de reprendre le dossier si tant est qu'il y a des nouvelles preuves. Et c'est ce que la police essayait de faire. La police disait, on n'a pas toutes nos conclusions. On n'est pas arrivé aux conclusions. Il nous manque cette preuve d'ADN, là, ce test. Je ne sais pas ce qu'on testait exactement. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Le DPCP peut se retirer.
Non, c'est vrai, mais le DPCP, Nick, avait retiré les accusations alors que d'autres enquêteurs qui avaient probablement, qui ont fait un vrai travail, là, qui mangeaient pas un smoke meat en même temps en regardant le match du Canadien, ont réalisé qu'il y avait un troisième agresseur, avait une troisième personne qui était donc, selon toute vraisemblance, l'agresseur, surtout qu'il y a le témoignage du chauffeur de taxi. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que ça ne s'est pas fait, un, d'entrée de jeu? De 6 jours, pour répondre à la question de Frédéric, c'est énorme pour un dossier comme celui-là, absolument énorme. 6 jours, là, c'est pratiquement une semaine sous les barreaux à te demander qu'est-ce qui va en avenir de ta vie. Parce que là, tu
sais. Non, mais
que
à être la personne qui a agressé une police, oui, je voudrais pas être à sa place, là, parce
Puis là, ta conjointe est enceinte de jumeaux. Ils ont saccagé son appartement, ils ont foutu la famille dehors, bon, puis toute la patente. Mais une fois qu'on a dit ça aussi, donc pour répondre à votre question plus précisément, quand Valérie Plante est sortie, les policiers essayaient de se sauver le derrière, essentiellement, ça, c'est complexe, et même le chef du SPVM a dit, ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le profilage racial, c'est une enquête criminelle. Comme si, justement, il n'y a pas d'enquête criminelle qui sont provoquées par le profilage racial. Moi, je trouve ça là, d'une absurdité totale. Tassez-moi ce gars-là ou trouvez-lui un porte-parole, quelque chose, parce que franchement, disons qu'il n'a pas aidé sa cause.
Frédéric Lapointe, deux choses. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant dans ce dossier-là? Et par ailleurs, êtes-vous d'accord pour dire aussi que le chef de police n'a pas brillé par ses performances communicationnelles jusqu'ici dans cette affaire-là?
On les paye pas pour ça. Par contre, on élit des politiciens pour que leurs commentaires, le plus possible, servent l'intérêt des institutions et l'intérêt de la société et pas simplement leur agenda électoral. Et là, de plus en plus, ce qu'on entend, c'est des politiciens qui jettent de l'huile sur le feu sur les relations entre les communautés, et les institutions, les relations avec certaines personnes et le service de police. Et si jamais on apprend que la personne qui a agressé le policier l'a agressé parce qu'elle pensait que le policier faisait du profilage, parce qu'elle pensait que le policier harcelait, parce qu'elle pensait que le policier n'était pas dans son bon droit, ben je pense qu'on va avoir des examens de conscience à faire. Mais n'attendons pas ce moment-là. Et lorsqu'il y a des processus qui suivent leur cours, qui innocentent les gens qui doivent les innocenter, ben s'il vous plaît, qu'on jette pas de l'huile sur le feu parce que, par ailleurs, de façon fort compréhensible, pendant 24 ou 48 heures, ben, les émotions sont au plafond.
Mais la question que je vous posais...
Je pense que nos leaders doivent avoir un meilleur sens de l'État que ça.
Mais ce que je voulais vous demander, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait, là, les demandes pour une enquête indépendante, neutre, et le reste...
Va s'occuper de ça. Je veux dire, ces choses-là ont été prévues depuis de nombreuses années. La lumière va être faite. Et de grâce, la prochaine fois qu'un policier se fait tirer dessus, que lui-même, comme seul policier sur les lieux, il y a des témoins dont les témoignages sont consignés, analysés, que je sache, il n'y a pas eu de destruction de preuves, que je sache, la preuve d'ADN a disculpé monsieur. Donc, c'est un peu un cas comme la DPJ, où on voudrait qu'il n'y ait jamais d'erreur, jamais de délai, que tout soit parfait, mais formuler ses exigences nuit au travail des principales personnes concernées. C'est vrai dans le cas de la DPJ, c'est vrai dans le cas de la police. Dans ce cas-ci, non, M. Camara n'aurait pas passé sa vie en prison. Il y avait suffisamment de preuves pour le disculper. Mais d'autre part, dans une situation où il y a une violence extrême d'exercer contre un policier, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une garde à vue, peut-être un peu rapide, on peut convenir de ça. C'est dommage pour la personne qui est en garde à vue, certainement, mais personne ne se serait attendu dans les circonstances que le principal suspect dans les circonstances soit libéré. Ça aurait causé un scandale, ça aussi.
Frédéric Bérard, qu'est-ce qu'on fait? Qui mène l'enquête? S'il doit y en avoir une? Où est-ce qu'on va à partir de maintenant?
Ben, il doit en avoir une, elle doit être indépendante, mais absolument indépendante, et ça, ce ne sera pas simple. Puis pour revenir sur ce que Frédéric disait, puis un s'accroche à l'autre. Moi, je suis pas d'accord avec lui que jamais ce gars-là n'aurait pu passer sa vie en prison. Des histoires du genre existent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un système qui est fondé sur la présomption d'innocence. On préfère libérer un coupable que condamner un innocent, mais reste qu'il y a toujours une marge d'erreur potentielle. Et moi, ce que je me dis, c'est que dans cette affaire-là, n'eût été de la question de la vidéo, puisqu'on n'a pas voulu écouter le témoignage du chauffeur de taxi. Ça, c'est la police hein, qui a cette preuve-là en main. S'ils décident de ne pas la communiquer au DPCP, ils ne peuvent pas deviner. Eh bien, s'il n'y avait pas eu de vidéo, comme s'il n'y avait pas eu de vidéo dans l'affaire de George Floyd cet été, comme s'il n'y avait pas eu de vidéo dans l'affaire de Joyce Akekan à l'hôpital de Joliette, c'est un peu différent, mais quand même, voyez ce que je veux dire avec la question de la vidéo. Je ne suis pas certain qu'on en arrivait si facilement à ces conclusions-là. Et je m'aime jusqu'à dire que même avec une vidéo, il y a quand même un enquêteur qui a trouvé le moyen de cochonner l'affaire et de faire en sorte que ce gars-là soit quand même accusé de tentative de meurtre sur un agent de la paix. Alors franchement, c'est pas si noir.
Là, il faut quand même dire une chose, hein, qu'on n'a pas dite encore à nos auditeurs, ceux qui ne le sauraient peut-être pas. Le policier qui a été agressé et qui est le qui a été le premier à mettre en cause M. Camara, est lui-même issu de la diversité, pour prendre les mots à la mode. Il devient, je pense...
Ça, si je peux prendre de l'avance sur Frédéric, c'est pas une garantie. Il a été démontré aux États-Unis par ailleurs que les policiers eux-mêmes noirs entretenaient à peu près les mêmes biais que les policiers blancs vis-à-vis
d'autres noirs.
Différentes communautés.
Les différentes communautés.
Ce sont en général des biais liés davantage aux conditions de vie d'ailleurs que la couleur de la peau, si vous voulez mon avis. Mais la couleur du policier ne détermine pas son attitude, du moins si on se fie là, à ce qui a été très bien documenté aux États-Unis.
Mais là, Frédéric Bérard, terminons là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme l'a évoqué une jeune policière dans les médias cette semaine, que les policiers en viennent à détourner le regard, passer outre lorsqu'il serait temps d'appréhender une personne qui n'est pas blanche ou qui porte une autre marque de différence, ou en tout cas d'être... Non, mais je vous pose la question. Non, elle ne se pose pas.
Non, mais c'est oui, vous pouvez poser la question.
Parce que, autrement dit, là, est-ce qu'on est en train d'importer une espèce d'escalade très américaine sur ce sujet-là dans un Québec qui, ma foi, quand même, là, n'est pas ne loge pas à la même enseigne que les États-Unis d'Amérique sur cette question-là? La supériorité de la race ici, ça n'a jamais été tant que ça notre affaire, non?
Comme je l'ai déjà dit, je peux être moins gros que Youpi, puis je peux être quand même gros. Hein? Et si je me fie au rapport du SPVM, si je me fie au rapport de la Commission des droits de la personne, si je me fie au rapport de la Commission Vient, les interpellations policières pour les gens de couleur sont de 5 à 10 à 15 à 20 fois plus nombreuses. Donc, pour reprendre l'argument de Madame la policière...
Donc ça, pour vous, c'est de cause à effet directement lié à une question arbitraire là, qui relève du racisme.
Ben oui, puis si je peux répondre plus clairement à Madame la policière, je dirais ceci. Quand vous avez rien sur un individu, ben vous ne l'interpellez pas de manière arbitraire parce qu'il est noir dans une BMW, vous lui foutez la paix.
Non, elle, ce qu'elle disait clairement, c'est que dans des situations tout à fait justifiées, contravention et autres, je sais pas, j'en sais rien, quelqu'un qui enfreint une règle ou une autre, se fait arrêter, il n'est pas blanc, il dit « vous m'arrêtez parce que je ne suis pas blanc. Je vais vous mettre sur YouTube, m'en voyez un peu. »
Ben oui, mais des idiots, c'est pas ça qui manque là, de toutes les couleurs, si on est d'accord là-dessus. L'affaire est la suivante. S'il y a une infraction qui est commise, on arrête. S'il n'y a pas d'infraction qui est commise, on n'arrête pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et le jour qu'on va essayer de me faire croire que des policiers laissent passer une personne de race noire qui a commis une infraction de peur de se retrouver sur Facebook, ben là, on va faire une émission spéciale, si vous voulez bien, puis elle durera le temps qu'elle durera.
Vous devriez aller dans la police, Frédéric Berge. Je vous verrai bien avec l'uniforme. Changeons de sujet. Nous allons parler dans quelques instants d'une décision de la Cour supérieure en ce qui a trait à ces articles-là du Code civil, mais il y a eu une autre décision de la Cour supérieure cette semaine concernant les acidiques qui demandaient à pouvoir être plus nombreux sur les lieux de culte pour prier, plus spécifiquement être 10 dans chacune des pièces ou des salles séparées d'une même adresse, plutôt que d'être 10 au maximum dans chaque lieu de culte. Je veux vous faire entendre un expert que nous avons interrogé là-dessus la semaine dernière qui nous avait fait une prédiction.
Bon, la première question, non, je ne pense pas qu'ils aient de chance de gagner quoi que ce soit. La liberté de religion n'est pas absolue, on le sait ou on devrait le savoir. Et puis voilà, c'est ça, à mon sens, c'est clairement une perte de temps.
Alors, c'était Frédéric Bérard qui nous expliquait que ces personnes n'avaient aucune chance de voir leur demande honorée. C'est le contraire qui s'est produit. Laissons-le rire un peu. Frédéric Lapointe, est-ce que vous êtes surpris par cette décision? Est-ce que le droit, tout ce qui concerne la religion, tous ces droits sont-ils supérieurs aux autres dans nos sociétés? Est-ce que c'est là qu'on s'en va ou bien il y avait une vraie raison ici de donner le droit à ces personnes de prier à 10 personnes par salle?
Ben, il semble que oui.
Oui, à laquelle de mes questions?
Il semble que Il semble que oui, c'est-à-dire que les gens qui ont obtenu ce jugement ne l'ont pas a priori obtenu sur la base de le caractère supérieur de la religion sur la loi de santé publique, mais l'ont obtenu parce que ils pouvaient faire valoir que l'unité concernée par la règle était la pièce et non pas l'immeuble. C'est ce que j'ai compris là, de ce qui a par ailleurs été commenté par des avocats patentés membres du barreau, ce que je ne suis pas, mais Frédéric vous pourra probablement compléter davantage.
Oui, mais est-ce qu'on peut se fier sur lui désormais?
Non, mais ça, Nick Payne, je la trouve très drôle et je me disais cette semaine...
Ah, nous aussi, on trouve ça drôle.
Oui, encore plus que moi, mais je ne peux pas croire qu'il va laisser passer ça sous silence. J'irais quand même plaider pour ma défense, puis je sais que je perds mon temps parce que je suis condamné de toute manière, mais quand même, pour la forme, à votre question, ce que j'avais compris, c'est est-ce que la liberté de religion peut avoir préséance sur les règles sanitaires de manière générale? Ce à quoi j'ai répondu non, c'est une perte de temps de plaider un truc du genre. Ah. Ici, la nuance est la suivante, c'est l'interprétation de du décret gouvernemental sur la question du lieu de culte et de l'immeuble, où on a dit, s'il y a plus qu'une salle dans l'immeuble, on peut rajouter, donc, dans ce cas-ci, c'est 4 fois 10 personnes. Donc, c'est une question d'interprétation. C'est même pas la question de liberté de religion qui est venue jouer. C'est pas là-dessus que la juge Chantal Masse s'est basée. C'est sur la question de...
C'est la même juge, d'ailleurs, qui a exonéré les itinérants de contravention, hein, si je ne m'abuse.
C'est la même. Puis elle avait fait exactement la même chose. C'est-à-dire une interprétation du décret. Qu'est-ce que... un sans-abri essentiellement, à quoi s'applique directement le couvre-feu, et c'est un peu la même chose. La liberté de religion, franchement, n'a pas grand-chose à voir ici comme telle, c'est une question d'interprétation, mais ceci dit, je sais que je suis condamné, puis à quelque part, ça me fait plaisir, tant mieux.
Oui, non, mais franchement, on ne peut plus se fier sur vous. De toute façon, Guillaume Rousseau, dans un instant, qui n'est pas réputé pour être d'accord avec vous en général, va sûrement nous donner un autre point de vue, mais donc, selon vous, ce n'est pas une affaire de... c'est pas le caractère religieux des plaignants ici qui est en, qui leur a permis de gagner ça.
Évidemment qu'on parle de lieu de culte, donc ici il y a un volet religieux à quelque part, mais c'est pas la juge n'a pas dit la liberté de religion permet d'invalider un décret sur les mesures sanitaires, et c'était à cette question que j'avais répondu la semaine dernière, mais peu importe, ne laissons pas les faits interférer dans une bonne histoire.
Quelle conclusion de mauvaise foi quand même. Mais c'est pas grave, on garde ça, on a tout enregistré.
J'en doute pas.
Un mot en terminant, Frédéric Lapointe, sur un sujet que nous allons aborder un peu plus tard dans l'émission, la sortie de la ministre Lebel sur la question de la réforme de la loi sur les langues officielles au Canada. Tout ça se résume en une chose, à mon avis. Là, la ministre Lebel veut qu'on en finisse avec l'espèce de symétrie très, très canadienne qui consiste à dire et l'anglais et le français sont à protéger au Canada et par conséquent, quand on donne un peu à l'un, il faut donner la même chose à l'autre, ce qui a toujours pour effet, enfin, selon certains, de favoriser indûment la minorité anglophone au Québec tandis que les francophones hors Québec sont mal pris. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle philosophie a des chances de prendre au Canada? Frédéric Lapointe.
Ça a des chances de prendre au Parti libéral du Canada. On le voit, il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là, qui n'auraient jamais d'ailleurs pu être prononcés dans les années 80 et dans les années 90.
Ben même la semaine dernière, à mon avis, c'est quand même étonnant, non?
Donc je vois que ça évolue et ne soyez pas surpris si le Parti libéral du Canada va plus loin sur cette question. Je pense que c'est un signe également du fait que au fil des décennies, on s'éloigne des réflexes orangistes que le reste du Canada pouvait avoir. Le Canada change, le Canada est très diversifié, le Canada est presque anational, d'ailleurs, si on écoute Justin Trudeau. Mais oui, il y a une telle chose qu'un certain effacement, il y a des reliques, là, mais un certain effacement du ressort électoral anti-francophone dans le reste du Canada, ce qui permet au Parti libéral du Canada d'être peut-être un peu plus audacieux et de revenir sur cette fausse équivalence.
Oui, mais vous avez vu une porte-parole, Frédéric Bérard, d'un groupe de représentation des Anglo-Québécois aujourd'hui dire « Nous, on ne se fie pas sur le gouvernement du Québec pour défendre nos droits. Ceci est dangereux. Il faut maintenir le statu quo dans ce domaine. » Vous avez été impliqué, vous, Frédéric Bérard, dans la question de la loi sur les langues officielles, non?
Ben, en fait,
fait, j'ai fait mon doctorat justement sur la question de l'asymétrie nécessaire là, avec un A là, entre minorités linguistiques au pays. Puis effectivement, j'avais présidé les consultations nationales sur la réforme de la loi sur les langues officielles. Et ma conclusion principale, c'est que c'est un peu comme la thèse de Doc, c'est que ça prend une certaine forme d'asymétrie, ce qui ne veut pas dire. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Marlon Reeves. Et ça ne veut pas dire de pas Reeves, c'est de la... Marlon Jennings, pardon.
Oui, c'est la porte-parole en question, oui. Oui,
ce qui ne veut pas dire de réduire nécessairement les droits des anglophones. Mais si vous regardez la situation institutionnelle, pour seul exemple des Franco hors Québec, ben, c'est de toute évidence la minorité linguistique la moins gâtée quand on compare. Et ce constat-là a été fait à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada dans ce qu'on appelle le concept d'égalité réel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être égaux en droit, mais il faut être égaux en fait aussi. Donc, ça implique que les gouvernements hors Québec doivent mettre les bouchées doubles, notamment en termes de ressources, pour favoriser la minorité francophone. Donc, tout ça est absolument logique et nécessaire. Et c'est cette espèce de suite-là qui est discutée en ce moment. Moi, j'y vois absolument aucune contradiction avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et je suis d'accord pour dire aussi avec vous deux, en fait.
Aucune contradiction avec l'esprit avec quoi? De quoi parlez-vous exactement?
Ben, ce que je veux dire, c'est que Frédéric disait au Parti libéral du Canada dans les années 80-90, effectivement qu'on n'était pas tout à fait dans l'égalité réelle, on était plus dans l'égalité formelle. Je crois que tranquillement, on s'est délesté de cette première approche-là. Et on s'en va dans ce sens-là, ce qui est, à mon avis, une excellente affaire.
Faut qu'on se quitte là-dessus. Frédéric Lacroix sera sans doute en désaccord avec vous là-dessus. On l'entendra dans quelques minutes. Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, merci d'avoir été avec nous ce midi. Vous êtes toujours enregistré, hein, oubliez pas.
En espérant que l'enquêteur regarde la vidéo comme du monde.
Dans un instant, nous discutons avec Guillaume Rousseau de cette avancée, en principe, en tout cas pour les personnes trans et non-binaires, grâce à la Cour supérieure cette semaine. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, ce dossier cheminait depuis 7 ans. Le Devoir titrait cette semaine « Victoire judiciaire importante pour les personnes trans et non-binaires ». Alors, en effet, la Cour supérieure du Québec a invalidé, c'était jeudi dernier, plusieurs articles du Code civil du Québec qui étaient jugés discriminatoires envers les personnes trans ou non-binaires. Le gouvernement du Québec a désormais jusqu'au 31 décembre 2021 pour corriger le tir. Tous ne sont pas nécessairement dans cet esprit de célébration d'une avancée, comme ce qu'on sent dans le titre de cet article. Et demandons à Maître Guillaume Rousseau ce qu'il en pense. Il est au bout du fil. Bonjour, Guillaume Rousseau.
Bonjour.
Alors, vous avez parlé vous-même sur Facebook cette semaine de problèmes possibles découlant de cette l'invalidation de plusieurs articles du Code civil. De quoi, comment voyez-vous les choses exactement? Comment résumeriez-vous votre position là-dessus?
Ben, il y a plusieurs choses. D'abord, le jugement est unilingue anglais, donc ça, c'est toujours un peu désagréable au Québec quand on est censé avoir une seule langue officielle, le français.
Le juge Gregory Moore, hein, c'est ça.
Comment?
Oui, le juge était anglophone, manifestement, Gregory Moore. Ouais. Oui.
Exact. Donc, puis une des parties, là, sans doute, mais il y avait quand même le procureur général du Québec qui, présume-t-on, devait plaider en français, mais bon. Donc, il y a déjà ça qui est toujours désagréable. Mais sinon, sur le fond, c'est une question qui est complexe. Hein. Moi, vous savez, j'ai souvent des opinions tranchées. Là, j'avoue que dans le dossier transgenre, intersexe, non binaire, je trouve qu'il y a deux côtés de la médaille et c'est peut-être important que vos auditeurs aient les deux côtés. Fait que, d'un côté, je pense qu'on l'a vu beaucoup dans les médias, c'est de dire, bon, ben, il y aura une avancée pour les droits de ces gens-là. Par contre, c'est ça. Ce qu'il faut regarder, c'est que le juge nous dit, ces articles du Code civil-là, par exemple, là, qui obligent à la mention, de mentionner à l'acte dans les actes de l'État civil, homme-femme, père-mère, des choses comme ça. On nous dit que c'est discriminatoire envers un certain nombre de personnes, là, par exemple les non-binaires, là, qui ne se sentent ni homme ni femme, ni père ni mère lorsqu'ils sont parents. Ça serait discriminatoire. Là, le juge nous dit ça, invalide ces articles-là, puis suspend l'invalidité, si vous voulez, donc maintient ces articles-là valides jusqu'au 31 décembre 2021. Puis ensuite, il dit, ben, finalement, le législateur a donc une dizaine de mois là, pour trouver une solution.
Pour nous ne pas nous laisser dans une espèce de vide entre-temps, si je comprends bien. Mais donc, les objections ont trait souvent à la question de la filiation. Est-ce que j'ai bien compris? J'entendais des avocats parler de ça cette semaine. Le droit, par exemple, pour un enfant de savoir qui est son père et qui est sa mère. C'est ça?
Oui, il y a ça qui est en jeu. Il y a toute la question de est-ce que l'on doit identifier le sexe d'un enfant suite à sa naissance. Là-dessus, le juge a décidé que ça pouvait quand même être raisonnable là, d'inscrire qu'il s'agit d'un enfant mâle ou femelle dans les premiers jours, alors que il y avait quand même une contestation même concernant cette règle-là. Et là, il y a des gens dont le doyen d'affecté droit de McGill, Robert Lequier, qui dit même ça, même si les juges n'ont pas invalidé ça, le législateur devrait modifier ça. Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est maintenant la balle, à moins qu'il y ait appel, donc il y a 30 jours après le jugement là, qui date de la semaine passée là, pour aller en appel. Donc, ça, c'est la première étape. Y aura-t-il appel ou pas? J'ai bien hâte de voir la position du procureur général là-dessus. Et ensuite, si jamais il n'y a pas appel ou si le jugement devait être confirmé en appel, là, c'est vraiment l'Assemblée nationale qui aurait un certain nombre de mois pour régler la question, parce que le juge n'est pas arrivé vraiment à régler la question. C'est une chose de dire c'est discriminatoire d'indiquer homme ou femme, mais là ensuite, qu'est-ce qui ne serait pas discriminatoire? Alors là, c'est difficile de le savoir, parce que on pourrait bien mettre homme, femme ou non-binaire, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire moi je ne serais ni homme, ni femme, ni non-binaire. Donc, ça demeure discriminatoire. Donc, c'est un peu sans fin. Alors, c'est pas pour rien que le juge il fait le bout facile de dire voilà, c'est discriminatoire. Le bout difficile de trouver une autre façon de faire, ça, le juge n'a pas fait.
Alors, il jette la balle dans le camp du politique, clairement. La CAQ étant un gouvernement qui se veut un peu plus conservateur et nationaliste, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'obtempère pas à la hauteur de ce que ce jugement commande? Comment voyez-vous la suite des choses? Première question. Et pour le reste, je demeure encore sur ma faim pour comprendre où sont les écueils possibles. Qu'est-ce qui peut découler de ce jugement-là qui serait problématique là, pour la suite des choses?
Ouais, ben deux choses. Quand la discrimination fondée sur l'identité de genre a été ajoutée à la Charte québécoise, de mémoire, c'est en 2013, donc sous le gouvernement Marois, mm-hmm. et la CAQ, qui était à ce moment-là un groupe d'opposition, avait voté pour. Donc si je ne me trompe pas, c'était 2013. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que la CAQ n'avait pas été contre. Donc, historiquement, la CAQ n'a pas nécessairement une position différente des autres partis là-dessus. D'ailleurs, c'est ça. Donc, peu importe les gouvernements, péquistes, libéraux, CAQ, je pense qu'on a eu plutôt des consensus sur ces questions-là. Par contre, là où peut-être que le débat va venir plus corsé puis ça va devenir moins consensuel, c'est dans la mesure où ça pose de plus en plus un certain nombre de questions. Par exemple, une des solutions en guillemets possible, ce serait de dire ben on veut plus de mention homme-femme. Hein, je vous disais tantôt que homme-femme, puis là, ajouter non-binaire, ça ne réglera pas le problème. Donc on pourrait.
On exclut toujours quelqu'un. Ouais.
Exactement. Donc on arrête de demander le sexe des personnes. Et là, ben, ça pose la question, OK, mais toutes les dispositions dans les lois qui protègent les femmes, donc qui sont fondées sur la distinction homme-femme pour accorder dans certains cas des avantages fort légitimes aux femmes, est-ce que là on vient comme abolir ça puisque homme-femme ça n'existerait plus? Et là concrètement ça pose la question des hommes qui se sentent femmes et qui veulent participer à des compétitions sportives pour femmes ou encore qui veulent aller dans des prisons pour femmes. Mais là s'il n'y a plus de hommes, il n'y a plus de femmes, ça veut dire qu'il n'y a plus de compétitions sportives juste pour les femmes, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de prison seulement pour les femmes. Puis on s'entend là, la raison pourquoi il y a des compétitions sportives juste pour les femmes, c'est pour les femmes. Là, si les femmes étaient avec les hommes dans les compétitions sportives, elles seraient serait désavantagé pour des raisons biologiques évidentes. Même chose pour les prisons. Alors, c'est ça là, le problème si, sous prétexte de vouloir accommoder un nombre finalement assez limité de personnes, les non-binaires, les intersexes, c'est quand même c'est pas des millions de personnes. Alors, on veut les accommoder, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'a pas un risque de nuire plus largement à la cause des femmes? Je pense que là, cette question-là, qu'on a un peu éludée, je pense, dans les débats passés sur les droits des transgenres et tout, là, cette question-là, je pense que les partis politiques vont devoir se la poser.
On va peut-être passer un peu vite là-dessus, mais si on ne va pas jusqu'à ces extrémités, disons, qu'est-ce qui peut nous arriver si les parents ne sont plus identifiés comme père et comme mère, par exemple, ou encore si un père peut changer sur un certificat de naissance son statut pour celui de mère plus tard? Qui perd quoi là-dedans et comment on peut remédier à ça?
Donc, en droit, il y a toujours deux choses. Moi, je trouve une loi, c'est à la fois un outil pour gérer les droits individuels. Donc, qui peut faire quoi? Qui peut changer sa mention de sexe, son nom? Bon, pour quelle raison? Bon, donc, tout ça, ça m'apparaît, bon, c'est complexe pour les non-binaires ou quoi, mais ce qui risque d'arriver, c'est effectivement qu'il y a peut-être plus d'individus qui vont être accommodés, dont l'acte de naissance ou l'acte de l'état civil va pouvoir mieux refléter leur identité. Donc, au niveau strictement individuel, il peut y avoir des choses comme ça intéressantes. Au niveau plus collectif, mais ça touche aussi des individus, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que depuis quelques années, lorsqu'on a un enfant, on doit faire une déclaration de naissance, et là, on indique le nom de la mère, et ensuite, il y a une autre case, c'est l'autre parent. Évidemment, traditionnellement, c'était le père. Donc là, on met l'autre parent. L'idée, c'est d'accommoder les couples de lesbiennes qui ont des enfants, donc qui n'ont pas un père, une mère, mais un enfant, une mère, puis une deuxième mère, qu'on appelle l'autre parent pour inclure à la fois la deuxième mère et le père. Mais est-ce que on n'est pas en train de peut-être dévaloriser un peu la paternité? T'sais, est-ce qu'on vit dans une société où on a l'impression que c'est super valorisé la paternité, que tous les jeunes hommes qui ont des enfants assument parfaitement leurs responsabilités? Est-ce qu'on est dans une société où, au contraire, il faudrait peut-être là, valoriser ça, la paternité, et ne pas effacer les pères des déclarations de naissance? Donc, moi je pose ce genre de questions-là. Je pense que ça doit faire partie du débat et qu'il faut faire ce débat-là de manière plus large que simplement quelques plaideurs, quelques avocats et un juge. C'est un débat qui doit être plus large de société et politique à l'Assemblée nationale éventuellement.
Mon petit doigt me dit qu'on va vous traiter de transphobe ou quelque chose comme ça. C'est sûrement là qu'est toute la difficulté, en tout cas, partie des difficultés dans ce débat-là, sans doute. Le temps nous bouscule un peu, Guillaume Rousseau. Quelques mots peut-être sur le jugement touchant la communauté hassidique là, qui a donc remporté une victoire, elle aussi, cette semaine. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que, je vous pose la même question que je posais à mes invités précédents, est-ce qu'on est en face d'une forme d'asymétrie des droits parce que le religieux intervient ici ou pas?
Ben, en tout cas, ce que je comprends, c'est que ce jugement-là n'est pas fondé sur les chartes des droits, liberté de religion. C'est plus technique. C'est vraiment la définition là, de savoir est-ce que c'est tant de personnes par salle ou dans l'ensemble de l'immeuble. Donc, c'est vraiment de l'interprétation de règlement. Alors, on ne semble pas, puis c'est tiré, puis dans le fond, c'est le gouvernement qui a fixé ça. Donc, est-ce qu'il accorde un petit peu plus d'importance aux religions qu'à autre chose? Peut-être. Mais en même temps, on le sait, là, depuis la pandémie, il y a plein de choses qui sont permises. Certains magasins le sont, mais pas des soupers entre amis. Fait que, tu sais, ça peut pas être égal partout, puis c'est forcément un peu du cas par cas, puis le gouvernement fait ce qu'il peut. Et là, ce qui est en jeu, c'est qu'il y avait une ambiguïté. Et là, c'est le rôle des tribunaux de trancher quand il y a une ambiguïté. Moi, je trouve que c'est mieux que le tribunal l'ait fait en se fondant sur un aspect technique là, d'interprétation plutôt que d'aller sur la liberté de religion, où là, effectivement, ça aurait donné l'impression...
Aurait-il pu aller là?
À juste titre, qu'il y avait des privilèges. Là.
Est-ce qu'on aurait pu aller là? Est-ce qu'il y avait une cause là?
Ben, c'est ça. Ça, c'est l'autre question. Idéalement, lorsqu'on peut interpréter un règlement de manière à la liberté de religion, de manière à être conforme à la liberté de religion, on va pas invalider le règlement au nom de la liberté de religion. On va l'interpréter de manière conforme. Donc, on aurait pu aller là s'il n'y avait pas eu moyen d'interpréter le règlement là, de la manière qu'il l'a été, plus favorable à la liberté de religion. Donc ça aurait pu être une possibilité. Puis oui, en droit, on peut à peu près tout plaider. Là, puis la liberté de religion, là, ça, c'est fondé sur la croyance sincère de la personne. Donc on peut presque tout contester à partir de là. Donc ça aurait pu être le cas. Mais je pense que ça a été sage pour le juge, le tribunal, de s'en tenir à quelque chose de plus technique. Mais en même temps, d'autres vous diront qu'en droit, même quand on fait des analyses techniques, les grands principes du droit mentionnés, ben, sont là quelque part en filigrane. Donc, la question de la liberté de religion, même si elle n'est pas nécessairement explicitée à grands traits, elle est peut-être là. Donc, que des gens posent des questions là-dessus, là, c'est tout à fait légitime.
Elle a peut-être pesé d'une façon ou d'une autre, comme vous dites, entre les lignes. Maître Guillaume Rousseau, toujours un plaisir de vous entendre et à une prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
Bien, certainement. Merci à vous.
Dans un instant, chers auditeurs, Frédéric Lacroix sur la réforme de la loi sur les langues officielles au Canada.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, c'est notre expert sur la question de la langue au Québec et au Canada. Il est l'auteur de cet excellent livre que je ne saurais trop vous recommander, qui s'appelle « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Et là, je ne l'ai pas sous les yeux. Bonjour Frédéric Lacroix. Quel est le titre exact? Excusez-moi.
Pourquoi la loi 101 est un échec? Bonjour.
Bonjour. Publié aux éditions du Boréal, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Bon, je me suis au moins pas trompé là-dessus, mais je ne m'étais pas trompé sur le titre non plus. Merci d'être avec nous. Le temps nous bouscule un peu. Je vais dans le vif du sujet. Ces orientations, cette position du gouvernement Legault, rendue publique par la ministre Sonia Lebel cette semaine, est-ce que ça vous convainc, vous? Pensez-vous qu'on peut initier ce changement de culture vers une forme d'asymétrie au Canada en ce qui regarde la défense du français d'une part et de l'anglais de l'autre, si tant est qu'une telle chose soit nécessaire?
On récapitule un peu, ben, Mme Lebel a présenté la position du gouvernement du Québec, donc les demandes du gouvernement du Québec pour la refonte à venir de la loi sur les langues officielles, donc une refonte qui tarde là, depuis un certain temps. Puis une des demandes, là, c'est que le gouvernement fédéral reconnaisse que le français est la seule langue officielle minoritaire au Canada. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que le Québec demande qu'Ottawa renonce au concept de double majorité qui est vraiment l'architecture même de la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles se fonde sur l'idée qu'au Québec, les francophones sont majoritaires, puis hors Québec, les anglophones sont minoritaires, puis qu'il y a une minorité anglophone au Québec, puis des minorités francophones hors Québec. Ça, c'est toute la loi est construite comme ça.
Mais Frédéric Lacroix, ce que vous venez d'édicter là, ce que vous venez de dire là, ça ne concorde pas avec la réalité. C'est-à-dire que ça évacue complètement la politique, la démographie, et le territoire, et j'en passe. Non, il y a une forme de déni dans ce...
On est dans un délire juridique avec la loi sur les langues officielles où on prétend qu'il y a une égalité entre les langues, ce qui est démenti par la démographie, ce qui est démenti par la sociologie. Donc, effectivement, ça tient pas debout. Puis dès 1968, ça tenait pas debout. Donc, toute l'architecture a pas de sens à mes yeux. Mais là, ce que le Québec demande, c'est de mettre fin au concept de double majorité. Puis, à mon avis, il est loin le jour où Ottawa va accepter de faire ça, car il faudrait qu'il réécrive la loi sur les langues officielles au complet, qu'il change d'approche complètement. Donc, c'est une très grosse commande que Mme Lebel vient de faire là.
Mes employés, quel lapsus invraisemblable. Mes invités précédents, dont Frédéric Lapointe, un ancien candidat du Parti québécois, qui n'est pas mon employé, je le répète, il se montrait plutôt optimiste. Lui, il disait oui, le Canada est mûr. En tout cas, le Parti libéral du Canada est mûr pour un tel changement de culture. Vous n'y croyez pas, vous, si je comprends bien. Qu'est-ce qui va nous arriver avec ça? Ça va mener à rien?
Moi, je doute fortement. C'est l'âme et le cœur du Parti libéral du Canada, cette architecture-là, cette loi sur la langue officielle, c'est son legs historique. Donc, moi, je pense pas que le Parti libéral du Canada est mûr pour faire ça. Peut-être les autres partis, oui, on sent qu'il y a de l'appétit ailleurs au Parlement canadien pour envisager une refonte là, réelle. Mais moi, je doute fortement que les partis libéraux se rendent là. Je pense qu'ils vont nous offrir quelques changements cosmétiques ou des changements de formulation qui n'auront pas d'impact réel. On sait qu'ils ont déjà refusé d'appliquer la loi 101 aux organismes en charte fédérale. Ça a été une fin de non-recevoir totale. Puis ils ont déjà dit qu'ils n'abandonneraient aucun pouvoir là, dans le domaine linguistique au Québec. Donc,
malgré cette... prise de position commune là, des anciens premiers ministres du Québec, incluant Jean Charest, n'est-ce pas? Donc, ça ne mène à rien, ça. Faisons un instant la supposition que Ottawa faisait quand même certaines concessions en allant dans ce sens-là. Qu'est-ce que le Québec ou les franco-canadiens auraient à gagner? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans, par ailleurs?
Ben, moi, c'est clair que si le gouvernement fédéral fait un pas dans cette direction-là, c'est une bonne nouvelle pour le français au Canada. Là. Il faudrait que le fédéral appuie beaucoup plus fortement le français hors Québec, puis qu'il cesse d'appuyer le développement de l'anglais au Québec, qu'il cesse de considérer que les anglophones sont une minorité réelle, ce qui est faux. Puis on a vu, il y avait un article dans Le Devoir en décembre qui disait que Ottawa finance de façon très, très généreuse le développement de programmes en anglais dans les cégeps au Québec puis au postsecondaire. C'est des dizaines de millions par année. Donc, c'est tout le postsecondaire au Québec est en train de s'angliciser, puis Ottawa appuie sur l'accélérateur avec des fonds qui, dans le fond, sont supposés être réservés aux anglophones, mais qui vont angliciser les francophones. Donc,
ça déborde par le principe, le fameux principe de la complétude institutionnelle dont vous parliez dans votre livre, c'est-à-dire une communauté qui dispose d'institutions à ce point puissantes qu'elle fleurit, en fait.
Oui, mais le gouvernement fédéral finance des programmes en anglais dans les cégeps francophones directement.
Aussi,
Le programme est détourné pour angliciser les francophones. Donc, c'est pas du tout l'idée. Donc, si le fédéral arrêtait de faire ça, ça serait déjà un pas intéressant. Ça serait déjà bien.
On parlait tout à l'heure, il nous reste 2 minutes, Frédéric Lacroix, on parlait de déni de la loi des langues officielles qui ne tient pas compte de la réalité. Quand bien même même si elle devait changer substantiellement, là, la démographie, la sociologie, le Canada français hors Québec, là, est-ce qu'on peut vraiment renverser la vapeur là-bas?
Moi, je pense qu'il est très, très tard pour les francophones hors Québec.
Je ne vais pas vous transformer en Denise Bombardier, là, mais ça va rester entre nous.
Oui. Excepté à Ottawa, puis au Nouveau-Brunswick, bien sûr, les Acadiens, là, le taux d'assimilation hors Québec pour les francophones est effarant. Là. On parle de 50 à 75 donc dans une génération, il faudrait un changement de cap énorme, par exemple, ça ferait une vraie université franco-ontarienne là, avec des programmes en médecine, en génie, en français à Ottawa, une université de langue française de façon intégrale. Il faudrait un changement de cap majeur dans les politiques du fédéral et des provinces.
Et puis en terminant, est-ce que le gouvernement Legault, qui selon vous essuiera une autre rebuffade là, face à cette demande-là, a-t-il un prix politique à payer pour un tel échec?
Ben moi, c'est sûr que ça va être, pour moi, c'est clair que ça va être une rebuffade enveloppée dans des beaux mots. Le prix politique à payer, ben j'imagine que le gouvernement Legault va faire un appel de pied aux conservateurs pour les prochaines élections. Là. C'est ça en sous-texte qui va se passer. Là.
Alors, restons-en avec le sous-texte puisque le temps est écoulé. Merci beaucoup, Frédéric Lacroix. Toujours un plaisir de vous entendre sur ces questions.
À une
prochaine. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'être à l'écoute de Société. À chaque semaine, c'est un honneur, un plaisir de vous savoir là, à l'autre bout des ondes, ou encore devant votre ordinateur, ou que sais-je, ailleurs, par la magie du numérique. À bientôt!